Bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey. Je vous souhaite la bienvenue dans Galéja, d'émission culturelle mais surtout culturiste, ici sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Ils reviennent un an plus tard, c'est le retour de la vengeance, si c'était le titre d'un film. J'ai donc le plaisir ce soir de recevoir Bastien et Marvin de l'association Beast Not Dead et du groupe Six Friends. Comment ça va les gars?
Ça va
bien. Super bien.
Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va s'écouter le premier son de l'émission. Et le premier son de l'émission, c'est un son tiré d'un film, enfin, de la BO d'un film, comme Bastien m'a partagé tout à l'heure. C'est donc une musique qui passe dans le film Ra, et c'est une musique de Luigi Cesarelli, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui, c'est...
Je me plante totalement dans ce que je suis en train de dire.
Je ne sais plus le nom, mais...
on lance, et puis on revient après. Voilà, c'était donc Rats de Luigi Cesarelli. Il va pas m'en vouloir. Enfin, j'espère que vous non plus, les gars, vous n'allez pas m'en vouloir.
Non, il n'y a pas de souci, je m'en souviens pas non plus. Donc.
Je crois que j'ai merdé quelque chose avec ton micro, Bastien.
Ah, d'accord. Mince.
Vas-y, reparle un peu.
Oui, bonsoir à tous.
Ah, sinon, c'est juste que j'avais réglé le potard un peu trop bas. C'est bon, ça marche. Donc, pourquoi ce choix musical, les gars?
Eh ben, c'était un petit peu pour annoncer notre prochaine soirée BIS, donc la soirée BIS menstruelle numéro 36, qui sera donc consacrée à un réalisateur italien qu'on aime vraiment bien, qui s'appelle Bruno Mattei. Et du coup, bah, c'est le thème principal du film en fait, qu'on va passer, donc, qui s'appelle Les Rats de Manhattan.
Donc, vous continuez les soirées BIS Not Dead. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, donc vous connaissez Bastien et Marvin puisqu'ils sont déjà venus dans l'émission. Et pour les nouveaux qui écoutent, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est cette association, s'il vous plaît, les gars?
Ouais, bah en fait, on a fondé l'asso il y a 6 ans. Et justement, cette soirée sera l'occasion de fêter les 6 ans de l'asso déjà. Donc, c'est assez cool. Et ouais, donc, ça fait 5 ans et demi qu'on fait des soirées cinéma. Bah, on a commencé au cinéaste et ça fait un an qu'on est au Royal. Et du coup, on fait des films, enfin, on fait des soirées à la base qu'on faisait en double programme, on passait deux films. Maintenant, on n'en passe plus qu'un et parfois on en passe deux, c'est plus rare. Mais, et voilà, on passe des films de série B. En fait, ça peut être des western spaghetti, des films d'horreur. Surtout des films d'horreur d'ailleurs. Mais,
oui, beaucoup, ouais, bah, enfin, de la série B en ouais. Général, quoi. Et on essaye de varier le plaisir. Quoi.
Ouais, mais ce qui ressort surtout en série B, c'est souvent les films d'horreur.
Oui.
Ouais. Bah, pas non. Que, il y a aussi le film
érotique,
très large,
aussi,
hein, érotique, la science-fiction, il y a plein de choses.
Alors, est-ce que vous constatez un afflux de personnes en fonction du genre aussi du film que vous passez, ou vous avez un public à peu près régulier qui vient toutes les soirées?
Bah, on a nos habitués quand même, ça c'est vrai. On a réussi à fidéliser un public. Et après, effectivement, on a essayé de varier aussi des films plus connus. Donc, par exemple The Thing, le premier qu'on avait passé de Carpenter, qui est un culte et un chef-d'œuvre. Là, il y a forcément, ça attire un public plus large. Et puis, bah, des fois, en fonction des soirées, genre la soirée nécromantique qui était du gore allemand, bah, là, on avait un peu moins de monde, quoi, forcément. Mais sinon, ouais, ça va.
En décembre, pour Noël, on a passé les Gremlins aussi.
Ah, cool.
Et là, il y avait pas mal de monde aussi. Hein. C'était film culte, quoi.
Ouais,
et
puis un public familial, ça changeait un peu, quoi.
Ah ouais,
avec
ouais,
des enfants et tout, quoi. Donc,
Ouais, parce que dans vos soirées traditionnelles, là, je pense que par exemple pour les Rats de Manhattan que vous organisez, c'est un public quand même assez ciblé qui va venir. C'est pas...
Oui, c'est ça. Oui. Mais bon, après, on peut venir quand même à partir de 12 ans. Hein, c'est pas gore comme film.
Non,
oui,
mais
oui.
C'est surtout que c'est pas connu comme film. Non. L'Iron Manhattan. Enfin, moi,
non,
je
non, c'est pas connu.
Je vois ce que le petit flyer que tu m'as donné. Clairement, je ne connais pas du tout ce film. C'est un film italien, vous dites ?
Oui, c'est ça, oui. De 84. Et c'est un film... bon, beaucoup de gens disent que c'est un gros nanar. Hein, donc, nous, on n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est que c'est un peu hilarant quoi, comme film. C'est...
Alors, voilà. C'est intéressant parce que donc, qu'est-ce que vous pensez d'un site comme Nanarland, justement ?
Bah, Nanarland, c'est assez intéressant parce qu'ils bon, ils se foutent de la gueule des films, hein, clairement, mais sauf qu'ils expliquent pas mal de choses. Ils parlent du casting, comment le film s'est fait, les conditions de tournage, etc. Donc, c'est un peu... Ils se moquent gentiment, en fait. C'est oui. pas...
Puis on connaît les gens qui travaillent derrière et c'est des vrais connaisseurs, des vrais admirateurs, surtout des gens qui travaillent derrière. Et ils ont fait d'ailleurs plein d'interviews de réalisateurs. Enfin non, vraiment, c'est un bon site. Et on est un peu rentré là-dedans aussi par ce biais-là. Faut pas l'oublier.
Mais faut pas oublier aussi que parfois on voit dans des magasins un rayon de nanar. C'est pas un genre, nanar. Hein, c'est pas un genre de film. C'est que...
Oui, en fait, voilà. Ce qu'ils mettent nanar, c'est clairement ce qu'ils devraient marquer en tant que série B, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ils font qu'on fout un peu et...
Enfin, après, c'est à la... Oui, enfin, disons que c'est un terme qu'ils ont popularisé, et puis les gens l'utilisent un peu à tort et à travers, on va dire.
Voilà. Parce que moi, la sensation, par exemple, quand j'entends Nanarland, pour moi, je sens que c'est plus pour accrocher les gens, pour faire découvrir des films, justement, qu'ils vont pas connaître traditionnellement. Et potentiellement tomber amoureux de ce genre aussi de films.
Oui, en plus, on sent que c'est vraiment... Ils se moquent gentiment, hein, c'est... Voilà, quoi.
Et donc là, les soirées, vous continuez jusqu'à juin-juillet ?
Juin, oui.
Jusqu'à fin juin. Derrière, pause estivale, et vous reprenez l'année prochaine ?
Ouais, c'est ça, en septembre.
Vous avez déjà la prog jusqu'à la fin de l'année ou pas encore, les gars ?
Non, pas encore.
Non,
on a pas mal de problèmes avec les droits. Trouver les droits des films, c'est un... C'est complètement labyrinthique, surtout quand on s'attaque à des films comme ça, hein. Si peu connus, là ça devient compliqué. Quoi.
Parce que pour quelqu'un d'extérieur comme moi, quand vous parlez des droits, c'est-à-dire vous devez faire quoi en particulier pour pouvoir diffuser ces films dans un cinéma ?
Faut trouver déjà un fichier de bonne qualité, c'est pas toujours facile parce que des fois le distributeur en voit même pas, et ensuite c'est contacter les distributeurs en fait, hein, tout simplement. Mmh.
Les ayants droit en fait à qui le film appartient et des fois ils demandent une compensation financière.
Ça vous est déjà arrivé ?
À chaque fois. Hein.
Tous les coups.
Mais il y en a des fois qui sont plus ou moins sympathiques et d'autres qui demandent des sommes astronomiques.
C'est pas les plus gros qui demandent le plus en fait. Hein. Des fois c'est des tout petits qui vont nous demander 400 euros et les plus gros au contraire ils sont plutôt sympas la plupart du temps et ils font plutôt un partage de recettes.
D'accord.
Donc 50% pour nous, 50% pour eux. Donc du coup, tout le monde s'y retrouve. Même si on fait trois personnes, on perd pas d'argent, en fait.
Ouais, ok. Donc, ça, c'est cool. Tu vois, j'aurais jamais pensé que ça se passait comme ça pour des films qui avaient déjà été exploités en salle, quoi. J'aurais cru que si vous organisiez des soirées comme ça, c'était un peu libre...
Ouais, mais c'est des films qui ont été exploités en salle il y a 40 ans, pour la plupart. Donc les droits, des fois, ça change de main, en fait. C'est ça le truc.
Oui, puis un film, on l'achète pas à vie, un film. Hein, donc, des fois, on peut l'acheter pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc.
Non, c'est à s'arracher les cheveux, hein, vraiment.
Ok.
Oui.
L'association, est-ce que vous êtes toujours le même nombre ou continue de grandir aujourd'hui ?
On est deux. On a toujours été deux. et au moins, on est
tranquille. Voilà. On est fidèle. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant, donc il n'y a pas de raison qu'on agrandisse. Quoi.
Ouais, tant que vous en sortez tous les deux.
Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas grand chose à faire. Je veux dire, à part faire les affiches, les designs des affiches, ensuite les imprimer, les distribuer, faire un peu de communication sur les réseaux sociaux, sinon il n'y a rien en fait. Hein. Okay. Après, il faut être là à la soirée, et puis voilà quoi.
Oui, on présente les films toujours d'ailleurs.
Ouais.
Ouais, vous avez toujours une petite partie avant la projection du film.
Ouais, c'est 15-20 minutes quoi, ça dépend du film.
Et là d'ailleurs, vous avez un invité pour la prochaine soirée.
Oui, c'est un peu spécial. Et en fait, c'est David Didlot. À la base, on devait faire cette soirée-là en juin 2019 au Cinéaste.
D'accord.
Et cette soirée a été annulée 4 fois.
Ah oui.
Oui.
Ah oui.
On n'a pas eu de chance.
Ouais. Après, il y a eu le Covid, etc.
D'accord.
Et du coup, là, on s'est dit pour les 6 ans, ça pourrait être cool de marquer un peu le coup, de faire une soirée sympathique. Et soirée Bruno Mattei, il faut qu'on la fasse. Ça fait 5 ans qu'on doit la faire. Donc, on a reproposé à David qui a tout de suite dit oui. Et. qu'on a déjà rencontré d'ailleurs il y a 2 ans. On a fait une interview de lui qui est sur notre chaîne YouTube. Et en fait, il a écrit un bouquin sur le réalisateur, en fait, qui est un gros pavé de plusieurs centaines de pages, qui est hyper intéressant, que je vous conseille d'ailleurs.
Donc le livre s'appelle Bruno Mattei, Itinéraire bis, c'est ça, oui.
Et puis David Hidlo, en fait, on l'a connu à travers son fanzine, en fait, qui s'appelle Vidéotopsie.
D'accord.
Il a fait pas mal de vidéos sur Internet qui sont hyper intéressantes, et aussi grâce au bonus de Blu-ray, en fait.
Ah ouais,
où ils faisaient des bonus, ils revenaient sur la carrière du réalisateur. Et puis on le trouvait super passionnant, donc on a essayé de le rencontrer dans sa ville qui s'appelle
Chaumont,
c'est ça. Donc d'ailleurs on est allé le voir, ça fait combien de temps?
2 ans.
2 ans.
Un peu plus de 2 ans.
Ouais, c'est ça. Et on a fait une interview de 2 heures de lui pour notre chaîne YouTube, qui a pas mal marché d'ailleurs. Parce que c'est quelqu'un qui est pas mal suivi, mine de rien, qui sort beaucoup de choses. Donc, on s'est dit, il faut absolument la faire cette soirée. Et là, ça va se faire. Donc on est content, quoi.
Ça marche, bah, c'est cool ça. Et la chaîne YouTube, vous la continuez aussi en parallèle?
Oui, on a sorti une interview il n'y a pas très longtemps de Patrice Mélenec. Alors le nom ne dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un comédien qui a doublé, qui a fait énormément de doublages. D'abord de série B, puis maintenant il est en train de devenir le comédien qui double De Niro.
Ok.
Donc voilà, sa carrière,
Il
a 80 ans, hein, il est assez âgé. Mais il est connu pour avoir fait le doublage de Joe Pesci dans Maman, j'ai raté l'avion.
Ok, d'accord.
Et oui, le Dr Spratt aussi dans La Famille Pirate, enfin des choses comme ça. Et voilà, c'est...
Ouais, puis il a aussi joué au cinéma quand même.
Oui, il a joué pour Polanski.
Dans Frantic pour Polanski. Non, il a une carrière énorme, et puis il a fait un nombre de doublages incroyables aussi pour des jeux vidéo.
Voilà. Alors,
c'est une grosse carrière, quoi.
J'en profite que vous parliez de doublage pour annoncer officiellement que dans la prochaine émission, c'est un comédien spécialisé. Enfin, spécialisé, non, mais qui fait énormément de doublages, qui sera mon invité.
Ah, donc, c'est qui, du coup?
Je dis pas le nom pour le moment, mais dans 15 jours, donc un comédien qui fait du doublage, et ça va être cool. On en parlera un petit peu en antenne, si vous voulez.
D'accord. Ouais.
Avant qu'on enchaîne avec la partie musicale de votre vie, j'ai envie de dire, les gars, puisque vous faites partie du groupe Six Friends,
yes.
On va écouter un premier son du groupe, et que vous m'avez partagé, et quand on revient, on en parle et puis on vous découvre. Ça marche ? À tout de suite.
Man called my yard, so I hold my his father. Beaten and buried to his neck, left to be blind by the sun, he returned.
C'était donc Seas Friends avec le titre Manaja the Tomahawk Man. Je me trompe pas, c'est
Manaya,
bien ça?
C'est ça, Manaya. Ah.
Donc, c'est une chanson de votre composition, les gars.
C'est ça, oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vous l'avez écrite, cette chanson?
Alors, bah, déjà, Manaya the Tomahawk Man, c'est un film bis italien, un western. Okay.
Tout est relié.
C'est un western spaghetti. c'est un western tardif, il est de 77, c'est vraiment la fin du western spaghetti.
D'accord.
Et en fait, c'est un film qui m'a vraiment marqué parce que le personnage principal, au lieu d'avoir un revolver, il tire avec les petites tomahawks, les petites haches indiennes.
Ok.
C'est super original et c'est un film qui est hyper boueux, dégueulasse, il arrête pas de flotter tout le temps. C'est un western crépusculaire qu'on aime beaucoup et je trouve ça intéressant de faire un morceau là-dessus en fait. Et...
Alors, comment vous créez un morceau? C'est toi qui écris les paroles? Enfin, Bastien, c'est toi qui fais
qui fait tout là. Sur là. Alors, on a rapporté quelques arrangements avec l'autre guitariste.
Adrien, ouais.
Mais c'est surtout Marvin.
Mais en fait, ce morceau, enfin, souvent, j'ai toujours la musique d'abord et les paroles après.
Ok.
Mais ce morceau, c'est rajouté. En fait, on l'a composé alors qu'on avait déjà commencé l'enregistrement de l'album. En fait, c'était pas un morceau qui était prévu spécialement. Genre, un jour, j'ai pris ma gratte, je trouve un riff comme ça de guitare et puis voilà quoi.
Donc, là, l'album, t'en parles. Il est prévu de sortir bientôt.
Très bientôt, oui.
C'est-à-dire, est-ce que tu peux donner une date ou pas encore?
Non, je pense que d'ici, je pense, 2 semaines, je pense que les gens pourront l'écouter en entier.
Il sera disponible physiquement ou sur...
Oui, physiquement. Bah, on a déjà reçu les CD. Le presseur a été très rapide, 4 jours pour nous l'envoyer, donc c'était plutôt sympa. Et du coup, c'est un album 15 titres, digipack.
D'accord.
Il dure 1 heure. Donc il est assez long quand même. Et voilà, les gens peuvent venir nous voir aussi en concert, etc. Pour l'avoir quoi.
Ouais, on espère le mettre sur YouTube, sur Bandcamp et puis Spotify. Sur Spotify aussi. Oui. Pour l'instant, on n'est pas sur Spotify, donc
d'accord.
On a décidé de s'y mettre.
Oui.
Et c'est facile de se mettre sur Spotify ou...
On verra.
On n'a jamais fait, donc...
Vous jamais essayé.
Non, on n'a jamais fait.
Faut vivre avec son temps, donc...
Non, nous, on est fans du physique, nous.
Bah oui, voilà, tu me devances dans la question, parce que c'était clairement ça.
Les gens n'achètent plus trop de CD, en vrai, donc...
C'est vrai?
Ouais, non.
Ah, moi, j'aime bien quand même...
Ça dépend, parce que, par exemple, on a fait 2 concerts le week-end dernier. Le vendredi, on a vendu au Mans 0 CD, que dalle. Et le lendemain, on a vendu pour 100 euros de merch, quoi. C'est dans une petite salle en Mayenne, je veux dire, c'est... Ça dépend vraiment des gens, du public, etc. En fait, c'est... Et l'âge aussi, même. Bon, on va dire comme les gens plus âgés ont tendance à acheter des CD plus que les jeunes, quoi.
Ok. Oui. Et donc là, les concerts, vous en avez à venir ?
On est en train de voir pour faire une release party au 72, là, début mai. Donc c'est en train de se faire. Je pense que ce sera le premier week-end de mai, où on essaiera justement de faire venir quasiment tous les musiciens d'albums, parce qu'on est quand même 17 dessus.
Ah oui ?
Ouais. Donc nous trois, Bastien, Adrien et moi, plus des guests. Donc on a mis de la contrebasse, du violoncelle, de la trompette, du trombone. Enfin, on a mis pas mal de choses qu'on ne savait pas faire. D'un guimbarde, et puis beaucoup de chœurs aussi. beaucoup de choristes, du clavier aussi. Enfin voilà, on s'est fait plaisir, quoi.
Mais donc dans le groupe, à la base, vous êtes trois.
Oui.
En fixe, et après vous avez des...
Quand ça bouge, quoi. on est en train de voir pour avoir une formation aussi qu'on avait eu avant, avec un batteur et un bassiste aussi.
D'accord.
Pour essayer de se rapprocher le plus fidèlement des morceaux de l'album, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de... Quasiment tous les morceaux, il y a de la batterie et de la basse, en fait.
Et de la guitare électrique aussi.
Guitare électrique aussi, oui.
Et donc, en fait, quand tu composes, toi, tu composes qu'à la guitare, et après, tu mets la voix, et ensuite, tu viens rajouter tous les autres instruments dessus.
C'est ça. C'est ça, oui.
Sinon, parce que tu vois, je me disais peut-être que tu avais d'abord à la guitare ce que tu avais à faire, enfin, ta ligne musicale, et après, tu faisais tous les autres instruments avec un logiciel ou je ne sais quoi. Et après, tu posais enfin le texte qui allait bien dessus.
Bon, non, après, les arrangements, on laissait quand même pas mal la liberté aux personnes d'inventer, d'écrire leur partie, soit d'écrire ou d'improviser.
Par exemple, le morceau Manaya, le solo de trompette, Quentin, qu'on salue d'ailleurs, Tosilo, il avait son petit tableau, il écrivait ses partitions avec ses notes dessus. C'est le seul qui nous a fait ça, c'était assez marrant, franchement.
Ah ouais,
il essayait des trucs, on disait non, on fait plus comme ça, on essaie comme ça, et puis.
Puis on l'a dit juste, le truc, c'est qu'on veut que ça fasse Morricone, et Morricone. Après, tu fais ce que tu veux, mais il y a des codes dans Morricone qui sont vraiment, c'est les notes qui se répètent, etc. Donc, il a vraiment fait le taf, et on est très contents. Donc, voilà.
Donc, quand vous avez des... Tu vois, là, tu parles de Morricone. Quand tu as quand tu te dis, voilà, l'esprit de mon morceau, ça va être ça, est-ce que tu envoies à ceux qui vont jouer d'un instrument sur cette chanson, est-ce que tu leur envoies des trucs d'inspiration, leur disant « Écoute, ça peut t'aider à comprendre ce vers quoi je vais » ou juste tu expliques verbalement et ça suffit ?
Ça peut arriver, mais généralement, il y a pas mal de gens qui sont sur l'album qu'on connaît bien, c'est des potes, en fait, donc ils nous connaissent et ils savent ce qu'on veut. Ça a été plutôt rapide, en fait. Souvent, je leur envoie des démos à l'avance, des petites démos ou des choses comme ça pour leur expliquer un petit peu le visage du morceau, etc. Franchement, c'était rapide. On n'a pas eu de... Les gens ont tous bien compris le truc, en fait, et voilà, c'est bien passé, quoi. Et on a mis un an pour le faire, quand même.
Voilà, mais... c'était la prochaine
mais
question.
Mais après, on a pris le temps parce qu'on faisait maximum un jour d'enregistrement par semaine, maximum. Des fois, on pouvait être deux semaines sans jouer, en fait, donc...
problème de sous.
Donc ouais, voilà, en fait c'est ça, c'est vous enregistrer en studio, c'est pas à la maison, j'ai envie de dire.
Bah en fait oui, on l'a enregistré avec Simri Adil qui
salue d'ailleurs,
qui habite à 25 mètres de chez moi, donc c'était plutôt pratique. Et en fait on a décidé de faire ça chez lui dans son salon,
d'accord,
avec le micro, et pour tout ce qui était partie guitare acoustique de nous trois et le chant, et après tout ce qui était guest, les batteries, la basse, tout ça, on a fait au silo.
D'accord.
Je crois qu'on a pris 4 jours au silo en un an, c'est pas énorme non plus.
Hein. Alors le silo, c'est sur Le Mans, ça ?
C'est Arnage.
Arnage, ok,
ouais,
d'accord.
C'est ça.
Et c'est un studio d'enregistrement ?
C'est ça, oui. Enfin, okay. C'est plutôt de répète. Il y a un studio sur 9 salles, je crois, 9 ou 10 salles. Et voilà, c'est une régie avec tout ce qu'il faut pour enregistrer, puis le matériel nécessaire. Mais voilà, c'était... Puis pareil qu'on a fait les chœurs aussi, qu'on était 10 autour d'un micro. Bon, on l'a fait au silo, parce que sinon,
ah ouais,
c'était un peu...
10 autour du micro, ouais, ça commence à faire du monde.
Bah, il y a une petite différence entre le premier album et le deuxième, c'est que déjà, le premier, je l'ai fait quasiment tout seul, et les chœurs, en fait, c'est que ma voix. En fait. Donc moi, je voulais pas ça, en fait. Pour le deuxième, j'ai dit non, je veux vraiment des voix différentes, en fait. Donc c'est un album qui est assez roots dans la manière dont il a été fait, en fait. Il n'y a pas de... Rien n'a été retouché, il n'y a pas d'autotune, des trucs comme ça, en fait, c'est...
Ouais, c'est vraiment du brut, enfin...
C'est du brut, on a essayé de garder quasiment que... au maximum les premières prises pour qu'on reste dans l'énergie, quoi, c'était... Voilà, c'était vraiment une bonne expérience, et franchement, le premier album, je l'ai enregistré en 5 jours, et là, un an, donc c'est...
Ah oui.
Incomparable.
Ah oui. Incomparable. Une petite différence.
Oui, incomparable.
Et j'ai vu que vous aviez aussi également commencé à faire des clips dessus.
Oui, bah on en a quelques en préparation aussi, on va s'y mettre, mais...
Et donc là, pour les clips, par contre, vous êtes tous les deux à bosser dessus.
Oui,
là,
oui,
en fait,
oui.
Pour Manaya, on voulait le sortir assez vite et puis on voulait faire un hommage au film original. Donc, on a juste monté les images du film sur la musique. On s'est bien marré d'ailleurs à faire ça, c'était cool. Mm. Et là, on en a un autre qui est tourné, mais il va falloir commencer le montage. Donc,
Et là, vous n'êtes pas embêté pour utiliser des images de films dans les clips ?
Non, sur YouTube, là, ça va. Enfin, dans le pire des cas, ils reconnaissent les images et ils donnent tous les sous de la monétisation à l'ayant droit. Donc, nous, on ne touche rien dessus.
D'accord. Donc, voilà. En fait, ouais, vous ne misez pas sur YouTube pour...
Non.
Bon, non, pas du tout.
Enfin, on verra, hein, peut-être, mais... Bah d'ailleurs, notre vidéo qui a le plus de vues, c'est notre reprise de Django qu'on a sorti il y a 2 ans, et sauf que bah, on a 80 000 vues, mais vu que c'est le morceau est une reprise, plus le clip c'est du film,
on a zéro, quoi. Je l'ai sélectionné pour la passer en fin d'émission, cette
chanson. Ok, cool.
Ouais. On salue Louis Bacalov, d'ailleurs c'est lui Canossou.
Je pense qu'il est claqué, Louis Bacalov.
Je pense qu'il est mort à sa famille.
Depuis un moment, ouais.
Ouais, je crois qu'il est mort aussi.
Ouais. Ah ouais. Ah, c'est quand même un milieu assez, assez
YouTube,
compliqué, j'ai envie de dire.
C'est des flics, là.
Donc là, ouais, le groupe, il existe depuis combien de temps, maintenant ?
Alors, le projet a émergé dans ma tête en 2014, en fait. J'avais un groupe de métal avant, que j'ai toujours, d'ailleurs. Mais je voulais faire autre chose, en fait. Je voulais faire un peu de folk, etc. Et j'ai sorti un morceau en 2015. Et puis, après, j'ai sorti une démo 2 ans plus tard et... Et puis, à un moment, je me suis dit, j'en ai marre de jouer tout seul sur scène, en fait. Je lui ai dit, tiens, ça pourrait être cool d'ajouter d'autres instruments, donc basse, batterie, guitare électrique, etc. Puis j'ai demandé à des copains, en fait, on a fondé le groupe comme ça. Et au même moment, j'ai enregistré le premier album.
Ok.
Chez Thierry Chassin, à Mulsan. Et puis après, on a continué en groupe comme ça. Et pendant 2 ans, on a été en formation avec basse, batterie. Et puis, quand il y a eu le Covid, après, ça a été un peu plus compliqué. Et, on a fini à 3.
D'accord.
Et voilà.
Ouais, c'était aussi c'était plus simple en fait à se retrouver à 3 plutôt qu'à 5, quoi. Puis ouais. Ça permettait de jouer dans n'importe quelle situation, même dans des tout petits bars. Bon bah 3 guitares folk, c'est oui. Rapide. Alors dès qu'on met
une batterie,
ça commence déjà à sonoriser. Ouais. Ça veut dire qu'il faut tout amplifier un peu plus.
Et ça devient d'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand le groupe est devenu un vrai groupe avec des gens, c'est que les morceaux étaient déjà faits en fait.
Okay.
Que pour le nouvel album, on a pas mal aussi bossé tous les trois, donc chacun un peu à ses parties de guitare différentes. En fait, c'est compliqué de jouer les morceaux. Si j'étais tout seul, par exemple, ils n'auraient pas eu tout la même tronche. Là. C'était,
Vraiment,
il y a des morceaux, par exemple, je pense à Summer of Fate, qui n'est pas sorti encore, mais qui est le deuxième morceau. On a trois. Sur le refrain, on joue trois trucs différents. Quoi. Vraiment,
ah oui.
Mais vraiment très différents. Donc,
oui, donc en solo, ouais, plus complexe.
Ouais. Et c'est ça qui est intéressant aussi, chacun a sa place et ça qui est cool, quoi.
Et vous envisagez un concert avant une soirée bis, justement, ou pas ?
On n'y a jamais pensé, mais en vrai, c'est vrai qu'en plus, au Royal, il y a une scène et tout, donc...
Ouais, passer un Western Spaghetti, ce serait peut-être assez cohérent avec notre univers, quoi.
Mais... En vrai, pourquoi pas un jour, hein, ça peut être sympa. Hein.
Enfin, on avait pour projet, il y a quelques années, de faire un festival... justement, son lumière, on voulait projeter des films, faire des concerts, mais il y a eu le Covid et puis après, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Mais on voulait passer des films genre New York 97 de Carpenter sur.
Ouais.
On voulait faire un truc un peu en mode post-apo avec des concerts un peu underground et tout, mais peut-être un jour, hein, peut-être qu'on y repensera, mais.
Ouais, pour le moment, ouais, vous avez déjà cette
taf. Ouais.
Le temps passe, c'est mon pire ennemi dans cette émission. On va écouter le son suivant, c'est encore un son de votre groupe, Six Friends. C'est Every Drop Is Scared.
Sacred.
Ah ouais, ouais. Excuse, en plus.
Ah, chaque goutte est sacrée en
ouais,
français.
Ouais, ça parle de...
J'ai pas mes lunettes et là,
ça parle
je suis
de
un
la
peu loin d'écran. Donc
de
je le lance et on revient juste
avec
après.
Avec modération.
Just about to be
De retour dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Nous sommes toujours en compagnie de Marvin. Et j'ai bouffé ton prénom, Bastien, excuse-moi.
Ouais, putain,
c'est affreux. On vient donc d'écouter le morceau Every Drop is Sacred.
Yes, c'est ça. C'est ça.
Je me suis pas trompé au retour.
C'est ça, c'est le morceau d'ouverture de l'album.
Et tu vois, j'ai plissé les yeux comme un malade pour lire le nom sur l'écran. Et on est dans la troisième partie de l'émission. Avant l'émission, je vous ai demandé une petite liste de choses que vous avez consommées, que vous aimez, que vous avez appréciées récemment, que ce soit film, série. Donc, on va commencer par un genre que vous devez apprécier puisque c'est le cinéma. Est-ce que vous avez un film que vous voulez recommander qui vous a marqué récemment, les gars?
C'est
pas forcément le même, hein.
Moi, j'ai découvert assez récemment un film qui s'appelle Matewan, qui est ressorti chez un éditeur français qui s'appelle Intersection, qui a eu quelques trois ou quatre sorties pour l'instant, dont d'ailleurs un autre film énorme. D'ailleurs, j'aurais dû parler peut-être de l'autre. Mais celui-là est très bien. Matewan, en fait, c'est un film américain qui est réalisé par John Sayles. À la base, lui, c'est un scénariste qui était un peu dans la troupe de Roger Corman, pour ceux qui connaissent. Il a écrit des scénarios, notamment pour Hurlement de Joe Dante.
D'accord.
Et aussi de Piranha, aussi de Joe Dante. Mais il a réalisé une vingtaine de films. Et c'est un film que moi, j'adore déjà l'ambiance un peu des États-Unis, un peu de la campagne des États-Unis début 20e siècle. Donc là, le film, en fait, il se passe en 1920 en Virginie occidentale. On suit un tout petit village où, en gros, c'est des sociétés minières qui contrôlent le village. Et en gros, tous les mineurs travaillent dans des conditions déplorables. Il y a des décès quasi tous les jours. Et en gros, ça parle de l'histoire des premiers syndicats aux États-Unis, en fait.
D'accord.
Et donc, il y a un syndicaliste qui arrive dans ce petit village et qui essaie de créer un syndicat malgré les problèmes raciaux qu'il y a dans la petite communauté, parce qu'il y a des Italiens qui viennent pour travailler, il y a des Afro-Américains, et du coup, ça crée énormément de conflits. Et c'est un film qui est vraiment incroyable avec l'acteur principal qui est joué par Chris Cooper. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. C'est vraiment un film assez violent sur les... Qui est vraiment un film très engagé, en fait, hein, sur les conditions de travail des gens à l'époque. Et puis à chaque fois, c'est tiré d'une histoire vraie. Hein, et souvent, ça se finissait dans des drames, des fusillades incroyables.
Okay.
Et des tueries de masse, presque, en fait.
Ah ouais.
Et vraiment, ce film est vraiment exceptionnel.
Tu rappelles le titre une dernière?
C'est Matewan.
Matewan.
Il est sorti en 87.
Ok, donc, ça marche.
C'est franchement un classique, quoi.
Marvin, toi, ton choix?
C'est compliqué, mais il y a un film français que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, qui s'appelle La Horse. Donc, c'est un film de 70 avec Jean Gabin.
Okay.
C'est un film réalisé par Pierre Granier de Fer, donc un réalisateur assez connu en France. En fait, c'est un film qui est hyper violent en fait, pour l'époque. Il y a presque un côté western. En fait, ça parle d'une famille vraiment d'agriculteurs assez... assez fermé. Jean Gabin, il fait le grand-père qui est assez... Il parle pas, il est assez froid. Et il se rend compte que son petit-fils deal de l'héroïne, en fait. Il cache l'héroïne dans un petit truc pas très loin de chez eux.
Okay.
Sauf que il détruit la drogue et il enferme son petit-fils dans la cave pour le punir. Et sauf que les dealers veulent récupérer leur cam, en fait.
Ouais.
Et sauf que quand ils arrivent pour récupérer le matos, Jean Gabin... c'est les accueillir, quoi. Donc c'est un film qui est assez bourrin et avec un Jean Gabin un peu vieillissant, quoi. Et la musique de Gainsbourg est excellente aussi. Franchement, c'est un film que je vous conseille vivement. Je crois qu'il est ressorti en Blu-ray il y a pas très longtemps, là, dans une belle édition.
Je conseille, c'est très bien.
C'est un film qui dure 1h15, donc c'est quand même assez court.
Ah oui.
Et ça se regarde d'une traite. C'est vraiment, c'est très très bon film français.
Cool. Et donc c'est La Horse.
La Horse, ouais.
Ok. Bah, très bon choix. Enfin, les pitchs des deux films donnent vraiment envie d'être vus.
Ouais.
Si je vous demande une série télé.
Une série télé, je suis en train de regarder une en ce moment qui s'appelle Super Sex sur Rocco Siffredi.
Ah oui, c'est sur Netflix.
Ouais, et donc il me reste un épisode, j'ai pas encore fini. Franchement, je trouve ça assez intéressant et on voit que c'est pas une série américaine. C'est une série 100% italienne et franchement, c'est plutôt bien filmé. La photo est assez jolie, ça joue bien.
Ok.
Ça parle pas que de cul non plus. J'avais un peu peur.
Ouais, c'est pour ça que je me suis pas lancé dedans.
Non, c'est hyper intéressant. Et j'avoue que Rocco Siffredi, c'est un acteur que j'ai jamais trop apprécié et que je trouve un peu qu'il a un côté un peu gros dégueulasse. Mmh. Mais je trouve que la série, là, ça va lui redonner une petite chance quand même. On voit qu'il a une vie un petit peu merdique.
Ok.
Et je vous conseille, il n'y a que 7 épisodes, ça se regarde bien. Hein. Si je peux citer une série aussi que j'ai plutôt bien aimée aussi, c'est la série Gotham.
Ah.
Beaucoup de gens ont craché dessus.
Ouais, moi le premier, je crois.
Et bon, je me suis farci les 5 saisons et franchement, j'avoue que pour un fan de Batman que je suis, je trouve ça plutôt sympathique.
Ouais. Donc, j'ai pas réussi à accrocher.
Ah ouais,
moi, ah, non, j'ai lâché à la saison 2.
J'aime bien.
Et toi, Bastien?
Je regarde pas trop de séries ces derniers temps. J'ai commencé juste, j'ai regardé 3 épisodes pour l'instant sur 6. C'est Jean-Claude Van Johnson avec Jean-Claude Van Damme. C'était une série Amazon Prime.
J'ai regardé.
Alors, je regarde ça quand je fais mon sport, en fait. Du coup, je vois Jean-Claude Van Damme gonfler ses muscles. Et c'est pas incroyable, en vrai, mais...
Non, mais le pitch, honnêtement, m'avait bien fait marrer.
Ouais, ouais, voilà. Ouais, mais sinon, dans les classiques de série, moi, il y a The Office, mais bon, c'est super connu. Dès que j'ai un coup de mou, je me remets ça. Et la version américaine, j'ai pas encore vu la version anglaise. Faudrait que je m'y mette. Regardez pas la version française.
Il y a une version française?
Ouais, avec Berléand, quand même, dans le rôle principal. Ça pique, mais la version américaine est hyper drôle.
Ok. Si je vous demande un album musical, je vous l'avais demandé ou pas?
Ouais, bah alors pas un album particulièrement, mais moi j'ai découvert récemment un groupe de folk anglaise qui fait de la musique baroque, mais remis un peu au goût du jour. Alors, bon, au goût du jour d'il y a 50 ans, parce que ça date des années 70 quand même,
okay.
Mais ils apportent un petit côté psychédélique, et ça s'appelle Amazing Blondel. J'ai 2 vinyles pour l'instant, 2 que j'ai trouvé récemment, rue Nationale.
Sheritman BD, non?
Ouais, Sheritman BD, d'ailleurs, on leur passe le bonjour. Ouais. Et pour ceux qui aiment bien la folk anglaise avec un petit côté vraiment baroque, alors c'est assez virtuose, hein, ça joue très très bien. Bah, c'est vraiment une belle découverte, pas très connue, quoi.
Ok. Toi, Marvin?
Comme Bastien, j'écoute beaucoup de musique aussi, mais récemment, j'ai découvert un groupe de death metal, donc c'est pas du tout le même style de musique, là. Qui s'appelle Tenebro, donc c'est un groupe italien, ils chantent en italien d'ailleurs, enfin, ils hurlent en italien plutôt, et en fait ça parle que de cinéma bis italien en fait, donc principalement des films de Lucio Fulci, Umberto Lenzi par exemple. Alors, c'est vraiment dégueulasse, hein. c'est hyper gras, c'est le chanteur André qui vomit, tu vois, enfin c'est... Mais franchement, j'écoute ça quand je fais des footings et franchement je trouve que c'est vraiment cool.
Tu fais rêver là.
On est des fans de musique extrême tous les deux.
Ouais, Tenebro, c'est vraiment sympa, je vous conseille vivement ce groupe, quoi. Faut aimer le métal extrême, hein. C'est vrai que c'est assez violent et ça peut rappeler des groupes comme Necrophagia, pour ceux qui connaissent, des groupes titres sympas.
Impetigo.
Je ne connais pas du tout ce que tu es en train de dire. si je vous demande un livre, un roman, une BD, quelque chose que vous avez apprécié, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête?
Moi, j'aimerais bien parler de juste... Alors, c'est plus un auteur et son œuvre, parce que j'ai lu pas mal de livres de lui. C'est Jacques Stenberg. C'est un Belge qui a écrit beaucoup dans la science-fiction, en fait, beaucoup de nouvelles de science-fiction. Alors, il a commencé dans les années 50, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours des bouquins, il a fait aussi des romans, des bouquins extrêmement pessimistes, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un retournement à la fin de la nouvelle, qu'on ne s'y attend pas. Mais c'est toujours encore plus plombant que la nouvelle d'avant, en fait. il a fait un roman entier, alors je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié le nom. Où en gros, l'humanité est dévorée par les microbes qui grandissent. Du coup, ils sont obligés de prendre des fusées et partir dans l'espace pour trouver une nouvelle planète où habiter. Alors, les quelques survivants qui restent, hein, de la Terre. Et à chaque fois qu'ils arrivent sur une nouvelle planète, ils croient que c'est cool. En fait, non, c'est horrible. En fait, il y a un truc qui vient en tuer la moitié du groupe. Donc, ils sont obligés de repartir.
Okay.
Et c'est La Sortie au fond de l'espace, je crois, le film, il s'appelle.
Voilà. Le film ?
Le livre, pardon.
Ouais, non, parce qu'il est peut-être adapté en film.
Ouais, ça serait cool, mais il faudrait beaucoup de budget, je pense.
Toi, Marvin, il y a quelque chose que tu veux...
Ouais, bah récemment, je peux en citer 2 ou...
Ouais, bien sûr.
Bah récemment, Bastien l'a lu aussi, c'est l'autobiographie de Roger Corman, qui est un beau pavé que j'ai lu aussi, qui est passionnant, où ça parle beaucoup de cinéma. Vraiment, je peux conseiller ceux qui s'intéressent au monsieur et au cinéma bis américain particulièrement. Et franchement, c'est vraiment intéressant de plonger dans une période qui n'existe plus, quoi, le cinéma bis américain des années 50. On voyait que c'était du cinéma fait de briques et de broc. C'est vraiment cool. Je conseille. Et en deuxième, c'est récemment, j'ai trouvé un livre dans une boîte à livres abîmée, écornée. C'était une pièce de théâtre de Sacha Guitry.
D'accord.
Et donc de 1915, donc c'est très vieux. Et franchement, j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression que c'était écrit par un auteur contemporain, quoi. Il y a vraiment un côté, comment dire, ça fait pas du tout son époque, en fait. C'est en avance sur son temps, même, je trouve, même avec des côtés même féministes. Alors qu'à l'époque, bon, oui. Féminisme en 1915, c'était pas ça.
C'était pas la partie qui était la plus abordée, ouais.
Mais ouais, c'est, j'aurais bien aimé voir cette pièce réalisée en film, parce que Guitry était acteur, réalisateur aussi. C'est dommage, il l'a pas fait, et ça aurait fait un super, super film. Donc, ça s'appelle Je t'aime, où ça parle d'un homme qui séduit une femme. Voilà, en gros, c'est très simple, mais je vous conseille, ça se lit bien, et c'est plutôt marrant et bien écrit. Et c'est hyper subtil comme écriture.
Ok, merci. On arrive déjà au dernier son de l'émission. C'est encore un son de vous, les gars. C'est donc Django. Je le lance et on en reparle juste après.
Ça marche.
Alors, je l'ai lancé, mais je pense qu'au début, ça doit être très bas, le son.
Django.
Voilà. De retour dans Galéjade, émission culturelle mais surtout culturiste sur Radio Alpa 107.3 Le Mans, toujours en compagnie de Bastien et Marvin. C'était donc Django de Six Friends. C'était donc une reprise, comme vous m'aviez dit juste avant.
Oui, c'est une reprise du film du même nom, Django, voilà.
Eh bien, c'est parfait. On est donc dans la dernière partie de l'émission, c'est la partie des recommandations culturelles. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez recommander culturellement avant qu'on reparle de la soirée ? Rapidement, enfin.
C'est un livre aussi, du coup. J'avais noté, mais que j'ai pas parlé tout à l'heure. C'est un livre qui est écrit par des gens qu'on connaît de Toulouse, en fait. C'est okay. Écrit par Sébastien Guéraud et Maxime Lachaud. C'est un bouquin sur les films Mondo. Donc le bouquin s'appelle Reflet dans un œil mort. Et pour les fans de bis, surtout italiens, le Mondo, c'est un peu des films, on est obligé de passer un petit peu par là. Alors c'est des films assez bizarres, hein. Souvent c'est organisé sous forme de documentaire, où en fait ils vont nous faire voyager à travers plusieurs endroits du monde et nous montrer des choses bizarres en fait sur les différentes cultures en fait.
Ok.
Donc c'est des films assez souvent putassiers, un peu racoleurs, souvent avec une voix off hyper cynique, avec beaucoup d'humour. Et c'est des choses qui ont assez mal vieilli. Hein. Beaucoup d'ailleurs, la plupart des films sont un peu considérés aujourd'hui comme racistes, on va dire.
D'accord.
Bon, moi, je...
Parce que ouais, même les, ouais, les bisseux, comme on les appelle, il y en a plein qui n'aiment pas ce genre de film.
Il y en a pas mal qui n'aiment pas, mais il y a plein de gens hyper talentueux qui ont fait des mondos en fait. Et franchement, le bouquin, c'est un peu la Bible sur le sujet en France, en fait.
D'accord.
Il y a ça, 350 pages. Et d'ailleurs, ils vont le rééditer, là, chez Potemkin, dans quelques mois. Et ils vont sortir des films en plus avec. Donc,
okay.
Ils l'ont corrigé, et puis ils ont ajouté des choses aussi.
Exactement, ouais.
100 pages, je crois.
Ouais, ça, ils l'ont complété.
Ah oui,
ouais.
Oui.
Avec oui, apparemment les films de prévention américains, avec où ils montrent des accidents hyper violents. Il y a beaucoup de gore en fait aussi, okay, dans le monde d'eau. Faut avoir l'estomac bien accroché pour regarder ça. Donc.
Ok.
Mais bon, c'est un petit coucou aux copains quoi.
Ouais. Merci Bastien. Marvin, toi tu as quelque chose ?
Moi c'est un jeu vidéo.
Ok.
Un jeu qui est connu, hein, mais c'est Red Dead Redemption 2.
Ok.
Je trouve qu'il est absolument un chef-d'œuvre en fait. Et vraiment le jeu, l'histoire est géniale, la musique est super. Et franchement, d'ailleurs, c'est un hommage au Western Spaghetti, ce jeu. Plus ambiance italienne qu'américaine. Et franchement, moi, je l'ai fait deux fois. Et je vous conseille vraiment ce jeu qui est absolument un chef-d'œuvre. Le 1 était déjà bien, mais le 2, je trouve.
Et c'est sur quelle console déjà ce jeu ?
Il est sur PS4.
Ouais.
Xbox One aussi, je pense.
Ok. Mm. Bah, merci pour vos recos. Moi, j'ai deux petites recos à faire. Alors, la première va être une BD. C'est une BD qui est aux éditions ici même. La bande dessinée s'appelle Abaddon, c'est de Corinne Chadmi. L'histoire raconte celle d'un jeune homme qui arrive dans un appartement. Il a le crâne bandé, il vient de subir un accident, il se souvient de pas grand chose. Il arrive juste dans cet appartement pour le visiter, pour faire partie d'une colocation. Et l'appart lui plaît, donc il dit ok, banco, il s'installe. Et très vite, il se rend compte que la porte n'a pas de serrure et que quand il l'ouvre, il y a un mur derrière et qu'il n'y a aucune fenêtre. Il est donc piégé dans cet appartement avec tous ses colocataires qui ont l'air d'être là depuis longtemps. C'est une histoire assez particulière. Faut être concentré quand on lit la BD. Hein. Parce que moi, à un moment donné, j'ai lâché un peu, j'ai commencé à tourner les pages en train de divaguer. J'ai fait un petit retour arrière pour être sûr de bien comprendre là où j'allais. Donc c'est chez ici même, ça s'appelle Abaddon. Et la deuxième reco, c'est une série qui est sur Netflix, qui cartonne en ce moment, qui s'appelle Le Problème à Trois Corps. C'est adapté d'un roman chinois. Le Problème à Trois Corps raconte donc une histoire qui se passe sur deux temporalités, une temporalité dans les années 60-70 en Chine, et la deuxième temporalité de nos jours, où est-ce que dans les années 60, ouais, fin des années 60, début 70, ou même fin 70, la Chine trouve un moyen d'envoyer un message dans l'espace, un message auquel ils ont une réponse, et les répercussions arrivent de nos jours. Et c'est une série courte, il y a 9 ou 10 épisodes, c'est une première saison, ça s'annonce assez incroyable. Enfin, moi j'ai été captivé par cette série, donc je vous la conseille, ça s'appelle Le Problème à Trois Corps. Voilà, c'était les recommandations culturelles. Avant de finir, on en revient donc à la soirée Les Rats de Manhattan de Beast Not Dead, qui aura lieu donc le
25 avril.
Le 25 avril.
Alors à 20h pour la séance et puis la petite présentation. Et vu que c'est les 6 ans, on fait un pot à 19h. Donc il y aura de quoi manger, de quoi boire et tout. Donc n'hésitez pas à venir. Quoi.
Ok, eh ben, c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres actualités que vous voulez qu'on reparle vite fait en fin d'émission, les gars ?
Ah oui, vite fait. Bah, au mois de mai, en fait, on présente 3 soirées avec la seconde zone.
Okay.
Où ils passent des films aux Français. Donc, il y a le vendredi 10 mai, on passe un film qui s'appelle Parents. Alors, je ne me rappelle plus le réalisateur, mais c'est un film d'horreur assez sympa avec. C'est un des frères Quaid, je ne sais jamais, c'est Dennis
Quaid. Oui.
Dennis Quaid. Okay. Ensuite, le 17 mai, on présente et il passe du coup Bloody Mama. de Roger Corman, qui est un film de gangster assez violent durant la dépression aux États-Unis, avec notamment un des premiers rôles de Robert De Niro quand même. Donc,
okay.
C'est un film très cool. Et le 24, ce sera Small Soldier de Joe Dante, avec les petits jouets là, qui prennent vie et puis ils font la guerre et tout. Un film qui a vraiment bercé.
Bah oui, c'est clair. Ouais. Moi, j'avais les figurines et tout.
Ah oui, donc voilà.
Je le retrouve d'ailleurs pour la séance.
J'avais un copain qui avait la figurine.
Donc, n'hésitez pas, il y aura des petits programmes qui seront distribués sûrement aux cinéastes. Voilà, quoi. Pour avoir toutes
au
les cinéaste infos.
Ou au Royal
Non, en fait, ça, ce sera au français, en fait.
Mais le programme, tu dis, sera distribué au cinéaste.
Je ne sais pas si nous, on en aura, mais plutôt au cinéaste.
Ok, ça marche.
Plus d'aller voir au cinéaste.
On peut donc vous retrouver sur les réseaux sociaux avec donc sur Instagram le compte Beast Not Dead.
Oui.
Vous avez un compte aussi pour Six Friends.
Oui.
Ouais, aussi. Ouais.
Instagram, Facebook, YouTube.
On vous retrouve facilement. De toute façon, je vous taggerai moi sur l'émission.
Oui. Ok. Ouais.
Vous pouvez moi me retrouver donc sur Instagram avec galejad_émission, sur Facebook galejad.émission, en podcast sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Si vous écoutez le direct, je vous laisse avec je ne sais pas quoi, en toute honnêteté, puisque Delphine n'est pas là aujourd'hui. Si vous écoutez l'Ardif, ce sera oblique. Et si vous écoutez un podcast, eh ben, honnêtement, faites ce que vous voulez derrière. Passez une agréable fin de journée. Je vous dis à très vite. Merci à vous les gars d'être venus.
Merci à toi.
Beaucoup.
Et je lance le générique.
Qu'est-ce qu'on s'ennuie ?